Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, on évoque les amitiés improbables de l'histoire après Clémenceau et Monet, Piaf et Cocteau. Dans votre portrait 99% vrai, vous évoquez, Mathieu, un binôme encore plus improbable. Mais alors tellement improbable qu'il en devient fascinant.
Oui Stéphane, et encore le terme fascinant est insuffisant. Je dirais que l'existence de cette amitié-là, en s'attaquant aux fondamentaux du bon sens, en balayant toute forme de logique, viole carrément le principe même de la raison humaine. Je vous raconte cet après-midi l'amitié qui unit l'ex-basketteur excentrique Dennis Rodman et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Pour comprendre comment est née cette bromance contre nature, il faut d'abord replonger dans la biographie du leader suprême de la République populaire de Corée du Nord. Une biographie, vous allez voir, j'interviens assez vite en personne, puisque comme
mais
vous
oui,
le savez,
mais
Kim
oui,
Jong-un a fait ses études en Suisse, moi aussi. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on était dans le même collège. Et oui Stéphane, au tournant des années 90, dans le collège UP de la Châtaigneraie, la chatte comme on l'appelait alors, près de Genève, j'étais ami avec celui que vous appelez aujourd'hui Kim Jong-un, mais que nous appelions nous tout simplement Boule Coco, en hommage à ses deux passions, le communisme et la double crème de gruyère. Un jour, j'aurai la bombe atomique et je vous crèverai tous, charogne capitaliste, nous disait souvent Boule Coco, alors que, mutin comme le sont les enfants, nous le suspendions par les pieds au grand noisetier avant de l'asperger de sauce soja en riant. On pensait qu'il déconnait.
Voilà, c'est tout ça, c'est à cause.
J'assume ici la part de responsabilité qui est la mienne dans ce qui est devenu Kim Jong. Comme vous avez pu le lire dans la presse, c'était effectivement un ado rieur qui aimait le basketball, le ski et les films de Jean-Claude Van Damme et qui était aussi passionné par l'univers de Disney. À quoi ça tient, hein ? On se serait pas foutu de sa gueule, on aurait lu Françoise Dolto, on aurait compris que c'était pas une bonne idée de le forcer à jouer à Boule Coco prisonnier, variante sophistiquée et cruelle du ballon prisonnier qui consistait à jongler avec les testicules de Kimi en chantant Pandipanda jusqu'à ce qu'elle devienne bleue. Mais à coup le pas Stéphane, car il est probable que sans ces brimades répétées, Kim Jong ne serait pas devenu un dictateur complètement fêlé, autant pour nous. Alors pour Kim, je reconnais,
ouais,
c'est notre
bravo.
Faute. En revanche, je n'étais pas du tout à l'école avec Dennis Rodman, qui d'ailleurs n'est pas allé à l'école, ou pas longtemps. Dennis Rodman, c'est le plus grand bad boy de l'histoire du basket américain. On le surnomme Demolition Man. Diablement doué, mais aussi diablement déjanté et totalement incontrôlable. Il est couvert de tatouages et de piercings. Un soir, la police le découvre endormi dans son pick-up sur le parking d'un stade avec un fusil à pompe chargé. Sur le terrain, il porte le numéro 91. Pourquoi ? Eh ben, pour la simple et bonne raison que la Ligue interdit les numéros supérieurs à 90 et que emmerder le monde, c'est son dada. Il voit pas non plus d'inconvénient à se faire une petite gâterie sous la table, alors qu'il donne une interview en direct sur CNN. Pratique très risquée, Stéphane le sait, hein, une fois que vous vous êtes fait griller, vous n'avez pas trouvé mieux comme excuse que...
Mais j'ai un petit chauffage d'appoint.
En plus, c'était sur KTO, franchement, ça la fout mal. Sauf, bien sûr, pour un déglingo comme Dennis Rodman, qui était quand même le genre à s'offrir une virée blackjack pute tequila à Las Vegas la veille d'une demi-finale de NBA et d'être élu le lendemain meilleur joueur de cette demi-finale. Et c'est justement le basket qui est à l'origine de l'incroyable amitié Rodman-Boule Coco. Comme tous les ados des années 90, Kim est fan des Chicago Bulls et il rêve de rencontrer Michael Jordan. Moi aussi, mais lui, il est fils de dictateur, ça peut aider. Il tente donc de contacter dans un premier temps Michael Jordan, qui étonnamment ne donne pas suite. Le bouche-trou sera donc, bien des années plus tard, Dennis Rodman qui l'invite à découvrir les mille et une merveilles de la Corée du Nord, pays injustement boudé par les tours opérateurs. Dennis Rodman explique « Si Kim m'a contacté, c'est parce qu'il adore le basket. En fait, il a d'abord demandé à Michael Jordan de venir, mais Michael a dit non et il m'a appelé moi. J'ai dit d'accord, j'aime bien découvrir des coins à travers le monde. » Et oui, il est comme ça, Dennis, c'est un globe-trotteur. En 2013, il achète donc le célèbre Lonely Planet Pyongyang en 3 jours et il part à la rencontre de celui qui va devenir, je cite, « son ami pour la vie ». Un ami dont il dresse le portrait psychologique suivant, je cite « Kim est comme un grand enfant, bien qu'il soit petit. » Alors oui, en matière d'analyse géopolitique, on sent tout de suite que Dennis n'est pas abonné au monde diplo. Hein. Concernant les éventuels scrupules éthiques qu'il pourrait avoir en fréquentant le leader nord-coréen, il déclare, serein, « Je ne m'en tape de qui tu es. Tant que tu es sympa, je suis sympa. Que tu sois président, dictateur ou autre chose. Si tu es cool et qu'on peut boire de la vodka, c'est bon. » Alors là, le journaliste normal aura tendance à vouloir creuser en demandant à Dennis de préciser sa pensée politique. Mais le journaliste qui connaît Rodman, lui, aura la sagesse de ne pas le pousser plus loin sur
non,
le sujet.
C'est pas prudent.
Si vous le poussez plus loin, voilà son analyse, digne d'une envolée de Tonton Bernard à l'issue d'un réveillon trop arrosé. Je cite, hein, « Tout le monde ne parle de ce pays que pour dire des trucs négatifs, les camps de concentration et tout ça. Moi, je vois aussi beaucoup de beauté là-dedans. Les choses changent. Tous les pays ont des camps de concentration. Ça s'appelle des prisons. Donc, ce qu'ils font là-bas, on le fait ici aussi. » Bien, bien, bien. Quelqu'un reprendra du clafoutis, tonton. Bon. Mais justement, une si belle amitié, comment se concrétise-t-elle ? Que font Dennis et Kimi lorsqu'ils se retrouvent ? Eh bien, ils font comme tous les amis du monde, Stéphane. Ils se bourrent la gueule en faisant du karaoké. Kim Jong entonne des airs nord-coréens et Dennis Rodman reprend des standards américains, nous dit-on. Et parfois, ils inversent.
Johnny Appleau.
Somme homme du surréalisme, en 2014, Dennis Rodman lui aurait même chanté Happy Birthday to You façon Marilyn Monroe. Ça, on n'a pas de son malheureusement. Cerise sur le gâteau de cette bromance venue d'ailleurs et dont on peine à imaginer d'ailleurs certaines implications concrètes, comme par exemple comment ils terminent leurs conversations téléphoniques qui peuvent durer plusieurs heures. Allez, c'est toi qui raccroches cette fois. Non, c'est toi, Dennis. Non, toi. Allez, on compte jusqu'à 3. Je sais pas compter jusqu'à 3. Ah oui, merde. Alors compte jusqu'à 2, Dennis. En 2014, assez logiquement, Dennis Rodman reçoit le titre d'ambassadeur non officiel des États-Unis en Corée du Nord. Et c'est là, alors il s'emballe. Ma mission est de briser la glace entre les pays hostiles. Pourquoi cette tâche a été laissée entre mes mains? Je ne sais pas. Nous maintenir en sécurité n'est pas vraiment mon job, c'est celui du gars black. Le gars black étant Barack Obama, président des États-Unis alors. Mais laissez-moi vous dire un truc, si je ne finis pas dans le top 3 pour le prochain prix Nobel de la paix, quelque chose ne va sérieusement pas. Il faut croire qu'hélas, chose ne va sérieusement pas, puisque malgré tous les efforts diplomatiques de l'ambassadeur Rodman, la Corée du Nord est toujours aussi isolée sur le plan des diplomatiques, Kim Jong-un toujours aussi soupolé, et le nom de Rodman toujours aussi absent des listes des favoris pour le Nobel de la paix. Il a pourtant tout essayé, jouant de son amitié avec Trump, car oui, Denis est communiste ailleurs, mais républicain chez lui, il a tenté d'être un médiateur entre ses potes Kimi et Donald, se rendant sur les plateaux télé pour promouvoir la paix entre les deux pays, mais était-ce la casquette rouge « Make America Great Again » qu'il arborait, ou bien ce t-shirt vantant les mérites d'une crypto-monnaie finançant l'industrie du cannabis? En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Tant pis pour la paix mondiale, c'était en option. Il leur reste l'essentiel, les karaokés et la vodka, soit les piliers fondamentaux d'une amitié solide, inébranlable même, puisque, comme le dit magnifiquement Dennis Rodman, « Pour moi, la Corée du Nord, c'est un peu comme mon ex-femme. Tu l'aimes et tu la détestes à la fois, mais tu n'as pas le choix. » Il faut vivre avec. Une sagesse qui, je l'espère, inspirera le nouveau président américain. Et en parlant de sagesse, je salue celle d'Olivier Pouls qui, pour le bien de la relation franco-coréenne, n'a pas sali cette chronique de sa déplorable imitation de l'accent coréen.
En ce moment, on ne peut pas parler comme ça.
Ah mais ça, c'est l'hymne de Donald Trump. Mais merci beaucoup, c'est Mathieu. C'était 99% vrai. Il y a donc 1% de faux, si j'ai bien compté.
Oui, bon, alors vous l'aurez deviné. C'est juste que j'étais pas au collège avec Kim Jong-un, mais il était vraiment tout prêt. Il était vraiment tout prêt.
Oui. Je l'ai découvert beaucoup plus tard. Vous n'étiez pas à la Châtaigneraie?
Non, j'étais pas à la Châtaigneraie, effectivement. Non, moi, j'étais.
Vous étiez à Rolles.
Moi, j'étais dans le public. Non, pas du tout. J'étais dans le public, moi, Stéphane.
Le public suisse.
David, je vous interdis. Je vous interdis.
Le public suisse, c'est un peu comme le privé chez nous.
Oui, d'accord.
Bon. Europe 1.
Historiquement vôtre.